Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Mes chers docteurs, arrive la mine un peu défaite et le teint blafard. Que leur arrive-t-il donc ? Il est évidemment question dans cette clinique du je sais tout, de l'opération du jour. Et si ? Pour nos docteurs, ce sujet peut remettre en cause leur savoir ou au contraire les projeter vers l'inconnu libérateur de leur dogme. En effet, et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, ne suffit pas à leur intellect aiguisé. Et si la Corse n'avait pas été rattachée à la France, on se serait passé de Napoléon ? Et si Jospin avait été au second tour en 2002 ? Et si la réputation de Jésus n'avait pas, dépassé la Palestine ? Et si le mur de Berlin n'était pas tombé en 79 ? Et si j'en passe ? Nos chers docteurs sont forcément des spécialistes de ces questions, puisqu'ils sont spécialistes en tout et en son contraire. J'ai hâte, vous aussi j'espère, auditeurs de la divergence, d'entendre leur avis sur la face cachée de l'évolution de notre monde. Pas seulement en histoire, mais aussi dans d'autres domaines. Et si l'homme n'était qu'un imposteur sur cette planète ? Et si les oiseaux ou autres animaux nous étaient supérieurs ? Par exemple, et si les dinosaures n'avaient pas disparu ? Ferions-nous encore les malins ? Et si dans l'univers, il existait vraiment d'autres races bien plus développées que la nôtre, qui ne soient pas forcément adeptes de l'économie de marché ni de l'accumulation des biens comme unique horizon ? Mabuse, House et Jekyll, sortez les bistouris en piste pour l'une de vos dissections dont vous avez le secret. Faites-nous découvrir les perspectives les plus farfelues, emmenez-nous sur les chemins de traverse, ne laissez pas la pensée unique, thème de notre quad neuf docteur de la semaine dernière, envahir l'espace médiatique. Nous avons besoin de vous pour nous sortir de la poussière sclérosante du parler bien. Allez, on vous écoute, mon cher Mabuse.
Et si, il aurait fallu, si j'avais su, j'aurais pas venu. Yaka, Faucon, et si. A-t-on idée d'avoir inventé une telle conjonction qui, au mieux, exprime un projet d'avenir, au pire, un regret de ne pas avoir fait ceci ou cela ? Or, nous le savons, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords de ce que l'on a fait que des regrets de ce qu'on n'a pas fait. Cela prouve au moins que l'on a agi, que sa vie n'est pas faite que d'hypothèses jamais concrétisées, de rêves inaccessibles, une vie de chimère en quelque sorte. Et si j'étais intelligent, beau, riche, blanc et jeune, ceci-là ne serait que la version idéalisée de la vision que l'on a de la vie avec une conception égocentrique de soi, mais inatteignable. Et si n'est qu'une part de rêve que le réveil ramène à la réalité ? C'est ce qui se passe quand le joueur de loto imagine ce qu'il va pouvoir faire en gagnant 100 millions d'euros et qu'il constate qu'il l'a encore perdu. Ou encore quand il lit son horoscope et que le lendemain, il voit que rien de ce qui lui était prédit ne s'est réalisé. Au fond, le « et si » est un avenir de paresseux qui se ferait presque indépendamment de celui qu'il dit et qui laisse le hasard le contrôler. C'est la politique de Panurge, celle qui fait croire que chacun, peut-être tous, et que l'humanité ne sera heureuse que lorsque le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate, comme certains le prétendaient. Alors, même si, vous voyez, même moi je l'utilise, cela ne peut être acceptable. Il faut comprendre que seule la volonté permet de changer le monde ou sa propre vie, et que le combat est non seulement nécessaire, mais doit être permanent. L'acceptation fataliste des choses fait que le « et si » reste dans la part du rêve et le retour à la réalité souvent un cauchemar. Alors camarades, sois réaliste, exige l'impossible.
Merci Mabuse. Et si House nous donnait son opinion ?
Ah, et si. Et si Ève était née la première.
si Adam n'était né que de sa côte. Alors la côte d'Adam ne serait pas la même. La condition masculine aurait eu à affronter des siècles d'incompréhension et de domination. La femme aurait été contrainte de rechercher et séduire l'homme, idéal, imaginé dans ses rêves, quitte à faire n'importe quoi. S'agenouiller à ses pieds en déclamant des déclarations d'amour, se lamenter dans des poèmes romantiques, lui offrir des fleurs, des bijoux, la couvrir d'attention, exhiber son ego dans des actions insensées, parfois se trahir dans ses intentions. Pour pouvoir conserver son icône, son Apollon, son mage, elle aurait dû trimer toute sa vie pour satisfaire à ses besoins insatiables. Elle aurait appris l'esclavage, la dépendance jusqu'à l'aliénation, la ruine. Après des manifestations d'humeur, des rébellions et même combats de libération, elle aurait pu exiger pouvoir laisser libre cours à ses sentiments. Elle aurait pu obtenir le droit à la rédemption et pouvoir bénéficier d'une deuxième union différente et prometteuse. Alors, l'homme aurait inventé la nounou, l'aide ménagère, les appareils électroménagers au mode d'emploi lisible par les deux sexes, le micro-ondes et les plats industriels cuisinés. Et alors, un ministre de l'Éducation nationale aurait pu écrire une directive qu'il aurait pu appeler ABC égalité.
Eh oui, en effet, on aurait pu en faire des choses selon notre bon Dr House. Mais, et si Jekyll n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Uchronie, mon amour. Comme des mondes parallèles à l'histoire vraie des hommes. Comme une réalité face à la vérité. Comme une réinvention du monde afin de comprendre pourquoi il est si désenchanté par les temps qui courent. Uchronie, mon amour. Dans la série « Et si ?» Mais et si Isaac Asimov avait eu raison dans sa trilogie appelée « Le cycle des fondations » lorsqu'il inventa ce qu'il appelle la psychohistoire et fit de cette science uchronique l'outil qui guide les maîtres du temps, ceux qui gouvernent le monde? Et si la science-fiction devenait la règle du jeu? Et si l'histoire devenait une science, une vraie science? Une science dure et non plus une science humaine, autrement dit une science molle? Et si le balanciel d'histoire, mu par les mathématiques fractales, permettait d'affirmer avec une certitude incontestable « puisque, donc », rendant le futur probable, faute d'être certain. Alors, l'homme n'aurait plus qu'à tenter de maîtriser son destin, sa destinée. Il maîtriserait par là les séries causales, base de l'analyse historique, sachant que les causes produisent des conséquences, mais que chaque cause peut produire des conséquences différentes, selon le contexte. Et de citer mon ami fragmentaire, qui serine à qui veut l'entendre, le soleil durcit les œufs et fait fondre la neige. Et si la clé de l'évolution, son moteur, était le chiffre 7? 7 ans. Tant en micro-histoire pour les individus, comme vous et moi, 7 ans pour les groupes sociaux constitués, quels qu'ils soient, 7 ans en macro-histoire pour les superstructures étatiques et civilisationnelles, bref, 7 ans pour chacun des trois mondes, le moi, le nous et le vous. Le tout, bien sûr, en partant de la date de naissance et du point zéro du balancier. Enfin, délire, à voir. C'est ce sur quoi a travaillé depuis les années 50 le réseau Pugatch, un conglomérat de savants et d'intellectuels au cœur de la guerre froide. Pugatch, oh, simplement un minuscule village du nord du Canada où ils se réunissaient plutôt clandestinement. Et si la fiction devenait vérité? Et si nos gouvernants travaillaient déjà sur la question clandestinement? Alors le monde ne serait plus vu comme avant. Et si vous désirez en savoir plus sur la question, là, cherchez-moi. Et si vous me trouvez, alors je vous en dirai plus. De toute façon, ne retenez que vous êtes programmé et que votre destin, vous n'avez plus qu'à le prendre en main. Enfin, si vous voulez.
Si vous le voulez bien. Alors on a eu trois discours qui sont assez intéressants sur et si. Hein, et si, qu'est-ce qui se passerait? Alors notre docteur House nous a parlé, donc si l'homme et la femme, la différence entre deux, si ça s'était passé différemment, qu'est-ce qu'il y aurait? Notre historien, bien entendu, nous a fait comprendre que peut-être qu'on savait déjà à peu près tout, mais il suffisait de trouver les clés. C'est ça, Jekyll? Il y a des clés à trouver dans ce que...
Ah bah les formules.
Des formules mathématiques.
La modélisation.
Ouais, modélisation pour comprendre comment fonctionne notre monde. Et enfin, bah, m'abuse.
Avec c'est une théorie presque socialiste, le balancier. J'avance et je recule.
En effet, si le balancier était socialiste. Voilà. Bon, m'abuse, lui, nous a emmenés quand même sur d'autres sujets. On va peut-être revenir avec lui pour commencer notre petite discussion habituelle.
Ah ben, moi, j'ai été très... Je partage à peu près les points de vue de Jekyll, mais je voudrais revenir sur un point très intéressant qu'a soulevé House. Et si Dieu existait et qu'il ait créé non pas un homme et une femme, mais un être hermaphrodite, on n'aurait pas de problème de mariage pour tous, puisque chacun pourrait s'épouser. On serait sûr à peu près de sa descendance. Il n'y aurait pas de problème de turpitude, puisque nous pourrions nous faire à nous-mêmes l'amour. Et nous serions à peu près sûrs de notre descendance, même si on peut penser qu'elle serait rapidement dégénérative.
Ça, c'est le côté escargot baveux.
Ça, je ne l'aurais pas écrit. Ça, je ne l'aurais pas écrit, parce que moi, ce que j'ai écrit, si Ève était née la première, c'est tout simplement pour dire... C'était le but de mon billet, c'est que de toute façon, si ça avait été ainsi, de toute façon, ça serait toujours pareil.
Oui, c'est ce que tu disais, et au bout du compte, ça revient au même.
Pour moi, si n'existe pas, et si n'existe pas, et si c'est l'excuse de je ne sais trop quoi, la seule chose qui compte, c'est le présent. Et on construit l'avenir sur le présent et non pas sur des si. Et comme disait, si ma tante en avait.
On l'appelait mon oncle, ça c'est facile.
Exactement, mais c'est ce que j'ai voulu dire aussi. Si elle avait tenu la première.
Dans ces cas-là, l'homme serait l'avenir de la femme.
Et puis, ma foi.
Et ce serait de bonnes nouvelles.
Oui, de l'avenir
surtout
de la
femme. Surtout si c'était une poétesse qui avait écrit le poème.
Donc c'est pour ça que. Moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer que. La dérision du SI.
Du SI, oui.
Non, mais ça serait fantastique parce que dans le tableau, je crois, de Delacroix, on verrait comment un homme au sommet d'une barricade entouré d'Amazones, comment prêt à défendre la République. Et ce serait absolument superbe.
Et il aurait pas de culotte. Il n'aurait pas de culotte. Parce que,
absolument.
Ah voilà, parce qu'il faut quand même montrer...
Ce serait un vrai sans culotte.
Voilà, un vrai sans culotte.
Il y a déjà eu les Amazones, tu sais, elles étaient déjà dévoreuses d'hommes. Hein.
Ouais. Oui, mais tu sais le grand problème des Amazones, c'est qu'elles étaient obligées de te trancher un sein pour pouvoir tirer à l'arc.
C'est parce que le cancer...
Et le bras pour porter un coup. Ravage.
Absolument.
Bon, mes chers docteurs, je vois que vous dérivez un petit peu. Alors, et si on revenait à notre conversation, on peut revenir peut-être avec Jekyll, là, parce que sa théorie du balancier nous intéresse quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus.
Oui, ben là, c'est légèrement au-delà du « et si », quoi, la théorie du balancier, qui est une chose justement assez amusante, puisque elle a été émise, comme je le disais dans mon petit billet, par un réseau qui s'appelle le réseau Pougatch, ou du moins qui s'appelait le réseau Pougatch, du nom d'un petit village canadien.
Dans les années 60, 70
60, 70. Et c'était des savants, des intellectuels, mais de tous bords, autant des Américains, des Soviétiques, des Chinois, des Français, des Anglais, etc. Et qui avaient décidé de mettre en commun leurs recherches,
leur savoir.
Leur savoir et tout. Et entre autres choses, parce qu'ils ont bossé sur quantité de choses, entre autres choses, ils ont bossé sur cette notion du balancier et qu'ils ont voulu appliquer un peu à tout et notamment tenter de l'appliquer à l'histoire. Mmh. Et du coup, ça devient relativement amusant parce que le balancier, ça permet éventuellement d'entrevoir l'idée qu'il y a des fois où on se dit, avec la théorie du progrès, etc., on va toujours en progressant. Puis il y a des moments où on se dit, mais merde, ça a l'air de régresser.
Ça a l'air de faire le balancier.
Oui. Et en l'occurrence, c'est à partir du moment où il y a cette notion de balancier. Et si on applique cette notion de balancier à la sphère stricto sensu politique, ça permet aussi de comprendre pourquoi, par exemple, entre la France et les États-Unis, nous, par exemple, à Obama... est quelqu'un nécessairement de droite, enfin par rapport à notre sphère politique. Si on le compare avec, je sais pas, avec le Front de Gauche, avec le Parti communiste, etc. Et les Américains vont considérer éventuellement que même un Sarkozy peut.
De gauche,
ou en tout cas, enfin, pas autant à droite, parce qu'ils sont pas sur le même endroit du balancier. Les Américains sont sur un endroit, on va dire, très à droite du balancier, tandis que nous, on est sur un endroit encore relativement à gauche du balancier, ce qui explique la différence de perception. Et ce qui est amusant dans le balancier, c'est la différence qu'il y a entre la vérité, qui est incontestable, et la réalité, c'est-à-dire la perception qu'on peut avoir des choses.
Qu'est-ce que tu penses du balancier de droite, hein, qui s'apparente au danseur de tango? Un pas en avant, deux pas en arrière.
Ah oui, oui,
mais... Non, deux pas à droite. Deux pas à droite.
Oui, à droite.
Et, c'est là où les mathématiques fractales, en quelque sorte, permettent d'apprendre ce genre de choses avec ce qu'on appelle en histoire les freins et les accélérateurs. Et ça, grâce au fractal, on peut même modéliser, calculer de façon relativement précise les freins et les accélérateurs qu'il peut y avoir dans l'histoire.
Avec les recherches donc, de ces mathématiciens ou ces astrophysiciens, oui, puisque j'en connais un, moi, personnellement.
Et puis avec des idées de départ que même Lénine avait pu avoir. Quand Lénine disait « la guerre est un accélérateur de l'histoire », bon, c'était intuitif chez lui, mais en fait, cette intuition... peut se vérifier, y compris même maintenant, un peu mathématiquement.
Et vous, je crois bien, Dr Jekyll, vous avez parlé aussi, à un autre temps, de la fréquence des cycles révolutionnaires, hein, qui revenaient à période régulière. J'ai entendu parler de
oui,
ça avec
vous. Ça, c'était une vieille histoire. Mmh. Mais aujourd'hui, justement, cette modélisation est complètement dépassée.
D'accord,
on n'est plus dans le cadre cyclique, mais dans le cadre plutôt... éventuellement du balancier.
Eh ben, j'espère que les auditeurs ont à peu près suivi. S'ils
et dans la série, et si je veux rajouter juste une chose, c'est cette série de BD, en sont au tome 15, je crois, et qui s'appelle Le Jour J. Et donc, ça fait le 15e tome qui sort. Ouais. Et où à chaque fois, justement, c'est « et si ». Donc, et si les Allemands étaient arrivés à Paris en septembre 14 ?
Comme je disais, si la Corse n'était pas française.
Voilà, si les Américains n'avaient pas eu l'arme nucléaire en 45, etc. Et ça donne des choses assez amusantes. Le dernier tome, et si Jésus n'avait pas été crucifié en 33 ? Et ça avait été gracié par Ponce Pilate. Et ça donne un truc assez marrant.
Vous savez dans quelle série c'est paru ? C'est des BD ?
C'est en BD. Et ça s'appelle Le Jour J.
Le Jour J. Alors, donc, Le Jour J en BD pour savoir un peu plus de et si. On a très peu de temps pour conclure, on va demander à mes deux autres docteurs, parce que là c'est Jekyll qui avait la parole, de nous dire encore quelques mots. Et si, Aos, Mabuse, qui veut pas rendre la parole ?
Moi je veux bien dire un mot, Mabuse. Mais je pense que le et si, qu'il s'agisse de, comment, du groupe Pougatch, etc., c'est en fait l'entretien d'une illusion qui laisserait penser qu'on peut changer le monde, que la théorie du balancier, c'est forcément le balancier revient toujours à son point de départ, et que donc l'évolution ne pourrait pas se faire, en tout cas pas telle qu'on pourrait la souhaiter. Et donc ça met en contradiction toutes les théories.
Le balancier prend en compte l'évolution.
Toutes les théories, toutes les utopies, toutes les volontés, non pas tous les rêves, mais toutes les volontés, de changer.
Nous allons écouter maintenant...
Moi, je vais rejoindre un petit peu...
Notre house.
C'est cette... Et si, c'est en quelque sorte la croyance toujours de l'homme de vouloir maîtriser et de tout maîtriser, alors qu'en fin de compte, la seule chose qu'il a, c'est à construire son présent, et c'est la meilleure façon qu'il a de construire son avenir.
Son avenir, le présent et l'avenir. Jekyll, on a encore un petit moment, si vous avez quelque chose à rajouter, puisqu'on a encore un peu une petite minute là, de discussion.
Juste sur cette notion de balancier et d'évolution, en l'occurrence, justement, dans cette idée du balancier, l'évolution est prise en compte, puisque ça ne repasse jamais par le même endroit, d'où la théorie des cycles révolutionnaires, d'ailleurs, enfin, qui est reprise un peu là-dedans. Ouais. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose.
Alors, moi qui ne suis pas historien, je pense que c'est une théorie essentiellement pour rassurer les historiens sur la véracité, la qualité d'exprimer la réalité. Tout le monde le sait, surtout les sociologues.
Alors, sociologue, historien et docteur, surtout, hein, nous sommes avec nos docteurs, et on va quitter là-dessus, hein, sur cette petite émission que maintenant vous entendez tous les samedis entre 12h10 et 12h30. Ça dure 20 minutes. J'espère que le format vous convient. C'est assez concis. Et puis, on apprend toujours quelque chose dans la clinique avec mes docteurs du « Je sais tout ».
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?